Donc on a à peu près 1 heure et demie pour cette troisième table ronde autour donc du thème de la stratification, donc dans laquelle donc interviendront Lise Bernard et Anna Perrin-Heredia. Donc avant de leur laisser la parole, je voudrais simplement dire un petit mot d'introduction pour situer un peu cette session. Donc on l'a souligné depuis ce matin, le monde privé des ouvriers peut se lire à partir de plusieurs angles ou de plusieurs grilles de lecture, et donc parmi elles, la stratification sociale occupe une place centrale dans le livre, qui articule différentes dimensions qui sont analysées dans l'ouvrage, notamment la question du travail, la question du couple ou de la famille, celle des loisirs, ou encore celle des rapports au quartier ou du voisinage. Alors ces analyses ont joué un rôle structurant pour un très grand nombre de travaux depuis 1990, et en particulier donc pour des chercheurs un peu plus jeunes, donc qui sont représentés par les deux intervenantes de cet après-midi, donc la génération 2000, disons, des héritiers ou des héritiers du monde privé des ouvriers. Et donc ces deux interventions prolongent le questionnement qui est central dans l'ouvrage d'Olivier Schwarz autour de la stratification sociale. Et donc je voudrais simplement rappeler quelques éléments sur l'approche de la stratification sociale dans le monde privé des ouvriers pour cadrer, disons, cette session. Donc cette question de la stratification, elle est abordée dans le chapitre 2 du livre, où sont décrits les trois strates du monde ouvrier du bassin minier du Nord. Et ici, le mot strate a un double sens. D'abord, il s'agit de strates au sens de différents moments de l'histoire ouvrière locale, donc trois moments historiques du groupe ouvrier, donc des strates au sens de couches sédimentées au fil du temps qui s'accumulent. Mais il s'agit aussi de strates au sens de différents groupes sociaux qui sont situés à un différent niveau de la hiérarchie du groupe ouvrier, donc de haut en bas. Et donc l'intérêt de cette notion de strate qui est utilisée dans l'ouvrage, c'est celui, il me semble, d'articuler à la fois cette idée d'une segmentation hiérarchisée du groupe ouvrier et celle du changement social qui est très importante dans l'ouvrage, avec l'importance qui est accordée à la question de la sortie de la condition prolétaire des ouvriers. Et c'est en fait, il me semble, une articulation qui reste fondamentale dans l'HDR ensuite sur la notion de classe populaire. Donc ces trois strates, très rapidement, sont d'une part la strate prolétarienne, donc qui correspond à la société minière des années 60. La seconde, c'est celle de la déprolétarisation, qui correspond plutôt à celle des années 70, marquée donc par la hausse du niveau de vie et par l'accès à la consommation, et notamment aux biens et à l'accumulation d'objets dont Nicolas Duvou a parlé tout à l'heure. Et puis la troisième strate, c'est celle de la précarisation, donc qui est marquée par le développement d'un chômage de masse et de la précarité des emplois à partir de la fin des années 70 et du début des années 80. Donc ici, la stratification, elle est avant tout définie par la position dans la sphère productive et par l'économie. Alors peut-être c'est un héritage du parcours que vous avez décrit ce matin, et il me semble que on trouve déjà dans le monde ouvrier cette idée que les classes sociales, elles sont définies sur leurs deux jambes, donc à la fois d'un côté la position dans la sphère productive et de l'autre côté les styles de vie, mais que d'une certaine manière, en tout cas c'est comme ça que ça se présente dans l'ordre logique ou chronologique dans le livre, en première instance, si je puis me permettre l'expression, c'est finalement la position dans la sphère productive, et notamment la question de l'accès au capital économique qui est déterminante dans la définition de l'appartenance à telle ou telle strate au sein du monde ouvrier. Alors on l'a dit, en partant de ce point de départ, tout l'intérêt de l'ouvrage, c'est justement de se focaliser sur les styles de vie hors travail, et notamment dans le monde privé, avec, il me semble que cet ouvrage et celui de Florence Weber avec produisent une rupture importante en fait dans l'approche des styles de vie, notamment parce qu'ils permettent de, dans la lignée aussi des travaux de Hogarth, mais de travailler sur un univers social qui échappe en grande partie aux rapports de subordination directs qui sont connus dans le monde du travail ou à l'école, et où donc les styles de vie peuvent s'épanouir dans une certaine autonomie, qui est certes relative, mais qui est beaucoup plus importante, et on l'a largement souligné ce matin. Ce travail donc produit donc une rupture dans l'approche des classes populaires et de la stratification, à partir d'une approche ethnographique qui combine donc l'analyse des positions sociales et des styles de vie, en étudiant le monde privé, qui est défini donc par différents types d'avoirs. Et simplement, ce travail a donné lieu à inspirer beaucoup de travaux par la suite, et il me semble qu'on peut distinguer trois grands types de lignes d'analyse ou d'approfondissement ou de prolongement de ce travail, qui correspondent en fait aux trois dimensions des avoirs que Olivier Schwarz définit dans le monde privé des ouvriers. D'un côté, les biens, donc notamment l'accès aux objets de consommation. Ensuite, des liens, et notamment l'articulation entre les classes sociales, l'analyse des classes sociales et la famille et le couple. Et puis, par ailleurs, la question des lieux, pardon, qui est donc cette troisième dimension analysée dans ce travail et qui fait l'objet d'autres prolongements. Donc les deux interventions qui vont suivre ici s'appuient donc sur des travaux qui ont été fortement influencés et nourris par le monde privé des ouvriers et plus généralement donc par les travaux d'Olivier Schwarz, puisque pour l'une des intervenantes il était directeur de thèse et pour l'autre il était membre du jury de thèse et alors j'ai pas réussi à compter le nombre d'occurrences de son nom dans la thèse grâce à l'outil CTRL-F de mon ordinateur, mais il est cité de très nombreuses fois donc dans la thèse d'Anna Perrin. D'une part donc le travail de Lise Bernard élargit finalement le questionnement sur la stratification sociale engagée notamment dans le monde privé des ouvriers, en combinant donc une approche ethnographique des classes sociales et un questionnement sur les manières d'être ou les styles de vie, mais en élargissant donc ce questionnement à un groupe social différent qui est celui donc des cols blancs du commerce à partir d'une enquête sur les agents immobiliers. Et d'autre part, l'enquête d'Anna Perrin-Heredia prolonge l'étude du monde privé des classes populaires à partir de la question de la gestion des budgets et notamment du rapport à l'argent. Ouais, donc je laisse la parole pour commencer à Lise Bernard avec une intervention. Donc Lise Bernard qui est chargée de recherche au CMH et avec une intervention qui est donc intitulée « Quelques remarques sur le monde privé des ouvriers et l'analyse de la stratification sociale ».
C'est m'arrêter de manière très, très sélective sur deux aspects du livre qui contribuent, me semble-t-il, à sa richesse. Alors, ce sont deux aspects du livre qui ne sont pas complètement propres au livre. Et dans le même temps, ils y prennent des formes qui sont à la fois particulièrement poussées et ils y sont aussi présentés de manière, me semble-t-il, très, très originale. Et ce sont deux aspects qui, je crois, peuvent être aujourd'hui importants pour un grand nombre de travaux qui portent sur des questions de stratification sociale, et j'emploie ici le terme au sens large, qu'ils portent en fait ou non sur les milieux populaires. Autrement dit, il me semble qu'on peut trouver dans le monde privé des ouvriers à la fois des manières de mener l'enquête, mais aussi des manières de faire de la sociologie qui restent très pertinents plus de 25 ans après sa parution. Autre précision de départ, ce ne sont pas deux aspects qui sont dans le livre présentés comme pour être étendus à d'autres milieux, mais voilà, ce que je vais essayer de montrer, c'est en quoi ça pourrait l'être. Alors, je vais m'arrêter successivement sur ces deux aspects. Donc, le premier, c'est une manière de faire de l'ethnographie qui se caractérise notamment par une présence de longue durée sur le terrain et par le fait de réduire la perturbation. Et d'autre part, le second aspect consiste en fait à étudier, alors comme l'a dit Pierre, des manières d'être ou des styles de vie propres au groupe étudié. Alors j'en viens d'abord à la question d'une manière de faire de l'ethnographie donc qui se caractérise par une présence de longue durée sur le terrain et par la perturbation réduite. Alors une des premières caractéristiques, hein, bien sûr, du monde privé des ouvriers, ça a été rappelé en partie ce matin, c'est la durée particulièrement longue de l'enquête. Alors, à la fois Donc une première enquête donc qui a lieu de 80 à 85, puis un retour sur le terrain en 88. Bon. Et cette présence de longue durée correspond à la fois au temps de l'enquête, c'est-à-dire le temps pour gagner la confiance des enquêtés, d'autre part le suivi dans le temps d'un certain nombre d'enquêtés. Alors je pense ici notamment au chapitre 5, hein, voilà, Désiré Famille, où on sent bien deux bilans qui sont différents sur l'histoire des deux couples. Mais c'est aussi le temps du sociologue, à la fois le temps de récolter le matériau d'enquête, mais aussi celui de parvenir à lier entre elles, j'y reviendrai tout à l'heure, différentes thématiques. Autre grande caractéristique du livre, la perturbation réduite. Alors, la perturbation réduite, je ne reviens pas ici voilà, en détail sur le premier chapitre méthodologique, mais c'est en tout cas un rapport voilà, à la méthode qui s'articule avec donc, ce qu'Olivier Schwartz appelle aussi la perturbation utilisée, bon, que je ne développe pas juste ici pour des questions de temps. Les deux, en tout cas, sont liés et articulés. Bon, mais je vais particulièrement m'arrêter ici sur l'idée de perturbation réduite, qui donc se manifeste par le fait de vouloir déritualiser les relations d'enquête, par le fait d'entretenir donc, ce que Olivier Schwartz appelle une position flottante, et d'entretenir donc un grand nombre de relations informelles avec les enquêtés, donc tout ceci étant bien sûr favorisé par la longue durée de l'enquête. Donc des relations informelles, des discussions hors magnétophone, d'assister aussi à des interactions qui n'ont pas été provoquées par le chercheur, mais qui donc se déroulent devant lui, par le fait aussi de se trouver là au bon moment et de voir donc des choses auxquelles on pensait pas forcément au départ. Bon. Autrement dit, comme l'écrit Olivier Schwartz, on sait qu'il observe, mais on l'oublie aussi. Voilà. Donc tout un ensemble d'efforts pour déritualiser la relation d'enquête. Et alors, c'est toutes ces scènes qui sont, pour un très très grand nombre, donc qui sont décrites qui constituent le cœur de l'ouvrage, qui donc sont donc permises par cette longue durée de l'enquête, reposent à la fois sur une position du chercheur qui est alors complexe, ambiguë, et dans le même temps qui par moments se rapproche de celle d'un familier. Et ce sont ces moments qui permettent justement d'avoir accès à ces phénomènes. Et on sent bien à la lecture du livre que d'abord un grand nombre d'exemples qui sont donnés sont profondément liés à cette position d'enquête. Mais au-delà en fait d'un grand nombre d'exemples, c'est aussi un grand nombre, me semble-t-il, de résultats qui sont profondément liés aux relations d'enquête et à cette position qui donc repose à la fois sur la longue durée et sur la perturbation réduite. Et ce sont pour un grand nombre d'entre eux des résultats qui, me semble-t-il, ne pourraient pas être mis en évidence par d'autres types de méthodes, que ce soit par une approche statistique ou bien par une approche par entretien qui reposerait sur une enquête où les enquêtés ne seraient vus qu'à une seule reprise, par exemple. Voilà. Ce que je voudrais faire à présent, c'est de montrer, à partir d'une recherche que j'ai menée ces dernières années, comment la longueur de l'enquête et cette idée de réduire la perturbation peut, pour un groupe très différent, être aussi très pertinente. Alors, j'ai mené ces dernières années, donc depuis 2005, une recherche qui porte sur les agents immobiliers. Et avant d'en venir un peu plus précisément à cette enquête, il faut voilà, préciser que c'est une enquête qui s'inscrit d'abord dans un cadre assez différent de celui du monde privé des ouvriers, alors pour l'époque, bien sûr. Mais au-delà de ça, le groupe est socialement éloigné, je vais y revenir tout à l'heure. C'est aussi une enquête qui reposait sur, qui s'appuyait, qui mobilisait d'autres thèmes directeurs, et qui reposait, j'y reviendrai aussi parce que ça a des conséquences importantes, sur une autre entrée sur le terrain. Donc c'est une enquête que j'ai commencée en 2005, qui a principalement été menée entre 2005 et 2011, et depuis de façon plus épisodique, et qui porte donc sur les agents immobiliers, c'est-à-dire à la fois les personnes qui dirigent des agences immobilières, donc on appelle les directeurs d'agence, mais aussi sur ceux qu'on appelle des négociateurs, qui travaillent donc dans des agences immobilières sans les diriger, et qui, j'y reviendrai plus tard, peuvent travailler sous le statut de salarié ou d'indépendant. Leur travail étant donc de faire visiter des appartements, de recevoir des clients, etc. et de conclure des ventes. Mon travail s'est en fait centré sur les agents immobiliers du secteur de la transaction immobilière, c'est-à-dire en fait de la vente. Et l'enjeu de cette recherche était d'étudier à la fois le travail des agents immobiliers, donc le travail, c'est-à-dire le contenu de leur travail, leurs conditions d'emploi, les relations qu'ils entretiennent entre eux au travail, les compétences qui sont nécessaires pour effectuer leurs différentes tâches, les différentes dispositions aussi qu'ils peuvent mobiliser, mais aussi de m'intéresser à leur trajectoire professionnelle, trajectoire sociale, et aussi de m'intéresser à différents aspects de leur style de vie, de leur manière d'être, alors en particulier à leur rapport à l'avenir, à leur rapport à la consommation, à leur rapport à l'argent, à leur rapport à la culture, à leur rapport à l'école ou encore à leur rapport aux politiques. Et un des enjeux de cette recherche, c'était aussi, à partir du cas des agents immobiliers, d'essayer de contribuer à la sociologie d'un ensemble qui est plus vaste, qui est en essor en France depuis le début des années 80, qui s'inscrit au cœur de transformations sociales récentes et qu'on peut nommer les cols blancs du commerce, et qui regroupe une multitude de professions commerciales, comme par exemple des syndics de copropriété, des courtiers, des chargés de clientèle bancaire, des représentants de commerce travaillant dans divers domaines, des cadres commerciaux, aussi des professions intermédiaires commerciales dont la responsabilité financière est forte, des acheteurs d'espaces publicitaires, etc. Voilà. Sachant que c'est un groupe, on peut le montrer par différents aspects, qui présente à la fois des proximités professionnelles, alors sur laquelle je ne m'arrête pas ici, mais aussi des proximités sociales, notamment en termes d'origine sociale et d'alliance matrimoniale. Donc voilà pour l'enjeu un peu général de cette recherche, donc qui porte sur un groupe qui est éloigné du monde ouvrier, éloigné à la fois par sa position dans le travail, qui est nettement moins subalterne, éloigné du monde ouvrier aussi par son origine sociale, des origines sociales qui sont en moyenne, en tout cas, alors qui sont diverses, mais qui sont en moyenne plus élevées. Éloignés aussi au regard de leurs partenaires, des partenaires qui souvent sont issus de milieux sociaux aussi plus élevés. Un milieu aussi relativement éloigné en termes de niveau de vie. Alors même s'il faut préciser, c'est très important que leurs niveaux de vie sont divers, un certain nombre d'entre eux touchent des revenus qui sont importants, voire bien plus importants qu'un grand nombre d'ouvriers. Donc voilà un milieu social qui est éloigné, une enquête qui repose sur des thèmes directeurs qui sont en partie différents. Alors différents parce que cette question du monde privé n'était pas au cœur de l'enquête, même si j'y reviendrai, la question des manières d'être a joué un rôle qui est important. Mais en tout cas, la question du travail était dans cette enquête était essentielle. Et donc cette enquête, pour mener cette enquête, j'ai mobilisé différents types de méthodes. D'une part, alors c'est sur cette enquête que je vais m'arrêter en particulier ici, une enquête par observation participante dans une agence immobilière à Paris. Et alors, je précise ce point parce qu'il est important pour la suite, une enquête donc qui commence par le lieu de travail. Voilà, donc contrairement au livre, et ça a joué des conséquences sur la suite. Bon. Donc voilà, 15 mois d'observation participante dans une agence immobilière à Paris. C'est un travail que j'ai effectué en trois temps et qui s'est en fait étalé sur près de 3 ans. J'y travaillais pendant à peu près entre 3 et 4 jours par semaine. En plus de cette enquête, j'ai mené une enquête par entretien, donc cette fois-ci en dehors de cette agence. Donc entretien avec des agents immobiliers, directeurs d'agence ou négociateurs qui pouvaient travailler dans des quartiers différents, donc socialement différenciés, que ce soit à Paris ou en Ile-de-France ou dans d'autres régions françaises. Et les entretiens portaient alors à la fois sur leur travail, mais aussi sur leur trajectoire et sur différents aspects de leur style de vie. Et j'ai essayé en fait à ce moment-là de différencier le plus possible les trajectoires des agents immobiliers rencontrés. Et enfin, troisième type de méthode utilisée, un travail statistique, alors sur lequel je ne m'arrête pas ici, mais qui s'est appuyé alors sur différentes enquêtes, mais en particulier sur l'enquête emploi de l'INSEE, et qui avait pour objectif de situer les agents immobiliers dans l'espace social, ce qui m'a amené en fait à réaliser un travail morphologique sur l'ensemble des classes sociales à partir en fait d'une mobilisation de l'outil des PCS à un niveau très détaillé pour justement situer les métiers les uns par rapport aux autres. Et donc, au cours de cette enquête, et notamment à partir de l'enquête donc par observation participante, j'ai pu mesurer tout l'intérêt de la longue durée de la présence sur le terrain et aussi de la perturbation réduite. Alors, quelques mots sur cette enquête. Donc, une enquête qui a commencé par le travail, c'est parce qu'ils étaient, c'est quand ils étaient au travail que je rencontrais ces enquêtés. Et cette enquête m'a en fait conduite à devoir me construire dans cette agence une place, sachant que c'était une agence dans laquelle je ne disposais d'aucun contact initiaux. Et la position que je me suis trouvée a finalement me permettait de combiner deux choses. D'une part, mon rôle à l'agence consistait à remplir tout un ensemble de tâches administratives. Alors, par exemple, remplir des tableaux Excel à partir de ventes qui avaient été réalisées, notamment à partir de qui recensaient des différents prix à différentes périodes, et ce qui pouvait aider les négociateurs de l'agence à réaliser des estimations. Ça a pu être aussi saisir, d'un point de vue informatiquement, tout un ensemble d'informations sur le quartier. Ça a pu être aussi de réaliser des cartes scolaires. Voilà. Donc, en tout cas, un travail administratif. Alors, ça, c'est en fait un terme qui est important dans ce milieu, c'est-à-dire au sens où il se différencie d'un travail de vente. Voilà, j'étais à l'écart en fait des tâches les plus liées à la vente. Bon. Et en plus de ce travail administratif, c'est une position en fait qui me permettait d'accompagner les différents travailleurs de cette agence dans leurs différentes activités de travail. Alors là, j'y reviendrai, mais ça s'est fait aussi de façon très, très progressive. Les accompagner, par exemple, en visite chez les clients, les accompagner aussi distribuer des publicités dans les boîtes aux lettres, les accompagner aussi dans ce qu'on appelle des prises de mandat. Voilà, quand un propriétaire souhaite vendre son appartement, voilà, dans toute une série de rendez-vous qui constituent en fait l'essence du métier. Alors, c'est une position qui, pour l'enquête, a présenté deux avantages qui sont révélés importants. Le premier, c'est que c'était une position qui me permettait d'être à l'abri des tensions qui peuvent exister entre les négociateurs et les directeurs d'agence. C'est-à-dire que je n'étais concrètement, je ne jouais le rôle de ni l'un ni de l'autre, c'était une place qui était différente, et ça m'a en fait permis de pouvoir enquêter sur sur ces deux milieux professionnels en fait à la fois, ce que j'ai pu poursuivre en fait par la suite. L'autre avantage, c'est que c'était une position qui me mettait à l'abri des tensions qui peuvent exister entre les négociateurs. Alors, les négociateurs étaient dans cette agence, c'est pas le cas dans toutes, même si c'est le cas d'un grand nombre d'entre elles, étaient rémunérés exclusivement en fonction de leur vente. C'est-à-dire concrètement qu'une vente réalisée par un était un manque à gagner pour les autres. Et les tensions autour des questions financières étaient très présentes et souvent très importantes. Et la position qui était la mienne me permettait en fait d'être à l'abri de ces questions brûlantes d'argent. Et si bien qu'en fait, souvent, dans les discussions qu'ils avaient avec moi, il y avait une dimension pour eux beaucoup plus apaisante que celle qui aurait pu avoir lieu si j'avais rempli un rôle de négociatrice. Dans le même temps, c'était aussi une position qui, à plusieurs égards, était floue. Alors, d'un côté, tous savaient que je suivais des études de sociologie. J'étais en master 2 quand j'ai commencé. J'ai réalisé avec plusieurs d'entre eux aussi des entretiens qui portaient sur leur travail, des entretiens enregistrés, qui portaient sur leur travail, leur trajectoire et différents aspects de leur style de vie. Et tous à l'agence savaient complètement que je m'intéressais dans le cadre de mes études à leur travail. Bon. Et dans le même temps, dans de nombreuses situations, et ça s'explique justement par le temps long de l'enquête, j'étais pour eux souvent plus une collègue, c'est l'expression qu'ils employaient. Alors collègue, pas au sens où on avait la même fonction, mais collègue au sens qu'on travaillait pour la même entreprise. J'étais pour eux plus souvent une collègue qu'une étudiante réalisant un mémoire ou écrivant quelque chose. Bon. Et cette perturbation réduite, j'ai essayé de la mettre en place à travers voilà, bon, plusieurs éléments, notamment le fait de prendre peu de, ou voire pas du tout, de notes de terrain devant eux. Et j'ai aussi fait le choix avec certains de ne pas conduire avec eux des entretiens parce que j'étais devenue proche avec eux et que nos relations nous permettaient en fait d'aborder des thèmes très différents. Voilà. Donc des efforts pour déritualiser la relation d'enquête et ce qui a été en fait pour la suite très 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 précieux. Et c'est en ce sens-là que j'ai choisi au cours de ma recherche d'approfondir l'observation dans une agence plutôt que de multiplier l'observation dans différentes agences, ce qui en soi aurait pu aussi être un choix, une possibilité. Et donc cette longue durée de l'enquête, associée au fait de jouer donc sur la perturbation réduite, m'a apporté plusieurs choses. Alors d'une part sur l'analyse du travail, mais aussi sur l'analyse du hors-travail. Alors d'abord sur le travail, ça m'a permis en fait de suivre des ventes. Suivre les ventes donc, du début à la fin, donc, ce qui pour l'enquête joue un rôle enfin, très, très important, sachant que les ventes dans l'immobilier peuvent s'étendre sur plusieurs mois, enfin, même parfois plus, hein, ça dépend complètement des périodes, mais en tout cas au moment de l'enquête ça s'étendait très régulièrement sur plusieurs mois, et le fait d'être là au début, à la fin, de suivre les différentes étapes, ça a été très précieux pour comprendre un grand nombre d'éléments sur leur travail. Et suivre ces ventes, ça nécessitait aussi de pouvoir par exemple assister à plusieurs visites sur un même bien. Et en soi, ça peut aussi nécessiter donc une présence assez intense sur le terrain. Donc là, le fait que la présence était continue a joué là aussi un rôle important. Autre rôle du temps, c'est ça en fait qui m'a permis de saisir l'ensemble des tâches du métier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au départ de cette enquête, les tâches qui m'étaient accessibles, c'était surtout les tâches les moins prestigieuses, et notamment les accompagner pour distribuer des publicités. Et c'est en fait qu'avec le temps qu'ils ont alors d'abord accepté, puis qu'ils m'ont même proposé d'eux-mêmes de venir avec eux dans des tâches du métier plus prestigieuses, notamment des visites d'appartements, mais aussi des rendez-vous, par exemple, de négociation avec des clients, voire des rendez-vous chez le notaire. Donc rôle du temps aussi pour cette dimension-là. Rôle du temps également pour pouvoir les observer et comprendre ce qui se jouait pour eux, enfin ce qui était en jeu pour eux, à la fois face aux clients, mais aussi en dehors. C'est-à-dire qu'en dans ce milieu professionnel où les contrastes entre la scène et les coulisses peuvent être très importants, c'était essentiel pour saisir ce qui se joue pour eux dans leur travail, d'assister à la fois à ce qui se joue devant les clients et ce qui se joue en leur absence, et pouvoir être sur les deux scènes à la fois, ça aussi, ça m'a été possible par ce travail de longue durée. Et c'est aussi avec le temps qu'ils se sont habitués à ma présence et m'ont proposé d'assister par exemple avec eux à des formations, donc ce qui m'a aussi été utile pour comprendre leur métier, à des formations, donc par exemple pour cerner les clients, pour estimer des appartements ou sur des questions plus juridiques, et les accompagner aussi dans des conventions qui étaient organisées par le réseau d'agences à laquelle cette agence appartenait et qui consistaient par exemple en des remises de récompenses, etc. Donc voilà pour le rôle de la durée pour analyser le travail, mais ce rôle de la durée a surtout été essentiel pour accéder justement au hors-travail. Alors d'abord parce que ça a permis de suivre des enquêtés dans le temps, notamment quand ils pouvaient par exemple changer d'agence ou voire changer de profession pour un certain nombre d'entre eux. Et le fait de suivre des enquêtés sur la durée, donc en les revoyant souvent de façon, parfois de façon formelle, mais souvent de façon informelle sur la durée, ça permet notamment de saisir des trajectoires qui ne vont pas être perceptibles dans les statistiques, ou du moins dans certaines enquêtes statistiques, parce qu'elles se situent dans des, parce que ces moments en fait se jouent dans des périodes trop rapprochées pour être saisies par la statistique. Le temps aussi de l'enquête a aussi permis de multiplier les chances de se trouver là au bon moment. Au sens où toute une série de discussions ou d'observations que j'ai pu faire n'avaient pas été prévues à l'avance. Et surtout, c'est dans tout un ensemble de discussions informelles que j'ai pu avoir avec eux, alors que ce soit pendant des pauses, pendant des déjeuners, voire pendant des soirées organisées alors à l'agence ou ailleurs pour fêter par exemple une vente ou un anniversaire. Toutes ces discussions en fait informelles m'ont été très précieuses pour saisir, pour avoir déjà des éléments sur leurs histoires de vie mais aussi pour saisir tout un ensemble de manières d'être qui se jouent dans ce monde professionnel. Et notamment pour assister à des scènes qui ne sont pas, ou à des discussions qui ne sont pas elles-mêmes provoquées par le chercheur sur son terrain d'enquête. Et donc ça a été très utile pour analyser les trajectoires, les goûts, tout un ensemble de questions d'appartenance sociale, de représentation, etc. Donc en passant par des moments de partage de hors travail qui n'ont pu se multiplier que sur la durée, qui donc était beaucoup moins fréquent au départ qu'à la fin de l'enquête, et donc en passant par des repas, par des pauses, par des soirées, aussi parfois par des promenades, par le fait d'aller au cinéma, par le fait de faire des courses, et voire aussi à un moment par le fait de partir en croisière avec l'agence et toute une partie des agents du réseau pendant une semaine, ce qui donc facilitait les relations informelles et sur des questions qui pouvaient être très, très variées. Dans le même temps, donc cette position, donc je l'ai dit, était floue et pas forcément évidente à vivre au quotidien. Et en ce sens-là, les pages du Monde privé des ouvriers sur le cynisme ont pour moi été extrêmement éclairantes. Donc, dans cette enquête qui a combiné différents matériaux d'enquête, l'enquête de terrain de longue durée dans une agence immobilière a joué un rôle essentiel en permettant de mettre en évidence des éléments qui n'ont pas été possibles de mettre en valeur par les autres techniques d'enquête. J'en viens maintenant à mon deuxième point, l'analyse des manières d'être. Alors, il me semble que c'est une des... Alors, on le sait, hein, cette analyse des manières d'être ou des styles de vie constitue une dimension très importante d'un grand nombre de travaux sur la stratification sociale et constitue en tout cas une dimension fondamentale pour étudier différents milieux sociaux. Et dans le monde privé des ouvriers, cette question des manières d'être, des styles de vie, des expériences, de la dimension sociale, des expériences subjectives, joue un rôle central, essentiel, et elle est, me semble-t-il, mise en œuvre de façon très originale. Et une des originalités de cette approche est de jouer à fond, si on peut dire, la carte de l'ethnographie pour donner du sens à tout un ensemble de comportements, de modes de pensée, de représentations qui ne sont pas forcément évidents a priori. Et une façon de faire qu'on peut remarquer dans le livre, c'est une tendance à mettre en lumière, alors là je reprends une expression du livre, des éléments qui communiquent entre eux, mettre en évidence des résonances communes entre des thématiques ou entre des phénomènes. Autrement dit, une tendance à faire le pont entre des thèmes ou entre des objets qui, bien qu'étant objectivement liés entre eux, sont souvent étudiés séparément dans le travail sociologique, et notamment parce que la spécialisation de la discipline s'accroît. Bon. Or, il me semble que c'est très précieux pour saisir la logique de comportement, de mode de pensée, des représentations, d'insister sur les liens possibles qu'on peut mettre en évidence entre différentes thématiques. Et là encore, c'est une possibilité qui est très liée, me semble-t-il, à la longue durée de l'enquête, au sens où c'est en laissant l'enquête se déployer sur la durée, en laissant émerger des thèmes auxquels on ne pensait pas forcément au départ, et surtout en laissant les enquêtés se les approprier et en les écoutant, qu'on peut mettre en évidence des résonances qui au départ n'étaient pas soupçonnées. Alors c'est me semble-t-il une des grandes caractéristiques du livre et une de ses grandes originalités que de mettre en évidence des phénomènes de ce type. Alors il y a un grand nombre d'exemples qui pourraient illustrer ça. Je m'arrête juste sur l'un d'entre eux. Dans le chapitre 4, dans la première partie sur le travail, Olivier montre que travailler, frapper et boire communiquent secrètement. Je cite ici le livre, et on voit en fait très bien comment un rapport au travail, mais aussi un rapport au corps, également comment des conduites de dépenses et des pratiques hors travail peuvent entrer ici en résonance en étant en fait liées à une prédilection pour une légitimité agonistique. Voilà. Donc l'intérêt de faire le lien entre des thématiques diverses mais qui ont des résonances communes. Et c'est quelque chose que j'ai pu aussi expérimenter pendant mon enquête et qui, donc, je pense, peut être très précieux pour comprendre un certain nombre de phénomènes. Alors, dans mon travail sur les agents immobiliers, hein, je l'ai dit tout à l'heure, cette question des manières d'être était nettement moins centrale que dans le monde privé des ouvriers. Donc, notamment parce que le rôle du travail était plus important. Et dans le même temps, même si cette question des manières d'être était moins essentielle, elle a joué aussi un rôle important dans l'enquête. Et j'ai pu voir à quel point on pouvait, donc, grâce à la démarche ethnographique, donner du sens à tout un ensemble de comportements ou de représentations en liant entre eux différentes thématiques. Alors, je vais juste m'arrêter sur un exemple. On observe chez les agents immobiliers, chez un très grand nombre d'entre eux, un attachement à une idéologie de l'indépendance. Et cette idéologie de l'indépendance, elle repose d'abord sur le fait qu'un grand nombre d'agents immobiliers sont, au regard du droit du travail, des indépendants. Alors, c'est le cas souvent des directeurs d'agence. Ça peut être le cas aussi des négociateurs, quand ils ont un statut qu'on appelle statut d'agent commercial, quand ils sont rémunérés uniquement à ce qu'ils vendent. Et quand ils sont salariés, c'est en fait une forme de salariat qui se situe à un niveau intermédiaire entre le salariat et l'indépendance. D'abord, c'est parce qu'ils sont souvent relativement autonomes dans leur emploi, mais aussi parce que leurs conditions de rémunération ne sont finalement pas très loin de celles des agents immobiliers indépendants, au sens où s'ils ont un salaire, celui-ci repose sur une grande part de variables et est très intimement lié au chiffre d'affaires qu'ils vont réaliser. Et cette proximité avec le monde de l'indépendance va modeler en fait tout un ensemble de leur style de vie. Autrement dit, plusieurs dimensions de leur rapport au monde sont modelées par le lien étroit qu'ils entretiennent avec l'indépendance. Et c'est dans cette perspective qu'on peut en fait mettre en évidence des résonances entre, d'une part, leur rapport au risque, qui passe notamment dans le travail par une valorisation du risque. Leur rapport aussi à l'argent. L'argent n'est pas pour eux une donnée, un acquis, mais quelque chose qui se gagne, se conquiert au quotidien. Leur rapport au travail également, qui se caractérise en particulier par une valorisation de l'investissement dans le travail, du temps passé au travail, à l'agence, comme ils disent souvent. Ça peut être 10 heures, passer 10 heures par jour à l'agence, y travailler 6 jours sur 7, etc. Bon. Lié aussi à une conception du mérite, ils considèrent donc que cette façon de gagner leur vie repose sur l'argent gagné repose sur le courage, sur des sacrifices. C'est ainsi qu'ils considèrent comme plus légitime d'avoir un revenu qui repose sur les ventes qu'on réalise, beaucoup plus que sur un diplôme ou que sur de l'ancienneté. Intimement lié aussi, du coup, on comprend bien une vision de l'espace social, un sentiment de distance très fort, par exemple, avec les fonctionnaires ou les salariés stables, salariés donc, qui peuvent disposer d'une garantie d'emploi, d'un revenu régulier, garanti, etc. Et cette distance subjective repose par ailleurs sur une distance objective, à la fois en termes de statut professionnel, mais aussi au regard de différents types de distances sociales, les origines sociales, les types d'alliances matrimoniales, les agents immobiliers et d'un certain nombre de fonctionnaires, notamment au niveau des professions intermédiaires, sont très différentes. Bon. Ça joue aussi sur leur rapport au collectif, où les agents immobiliers ont rarement, par exemple, le sentiment d'appartenir à un groupe, vont être souvent méfiants vis-à-vis des manifestations, de certaines grèves de salariés, etc., etc. Alors, j'abrège peut-être ici pour gagner un peu de temps, mais juste un dernier point. Cette proximité avec le monde de l'indépendance s'accompagne aussi d'une forme de réticence à tout un ensemble de relations hiérarchiques. Alors que ce soit au travail, certains vont avoir tendance à dire qu'ils ont renoncé au salariat ou au monde de la fonction publique, justement en raison de la pesanteur du type de relation hiérarchique, mais aussi un attachement à l'indépendance qu'on peut trouver ailleurs et une réticence notamment aux relations hiérarchiques qu'on trouve alors dans les discours d'un grand nombre d'entre eux quand on s'intéresse à leur rapport à l'école ou à l'armée, par exemple. Voilà. Donc pour finir, j'en viens maintenant à ma conclusion. Donc j'ai voulu en fait présenter ici deux aspects, de manière très sélective, hein, donc deux aspects du livre qui m'ont donc au cours de mes travaux beaucoup donné à penser et qui, je pense, peuvent être extrêmement stimulants pour un grand nombre de travaux qui portent sur des questions de stratification sociale, qu'ils traitent ou non du monde ouvrier. Juste deux remarques pour finir. Première remarque, il va de soi dans le même temps que cette mise en œuvre à la fois de la démarche ethnographique, que cette réflexion sur la perturbation